Bonsoir à tous et bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Tiens, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête, on dirait presque un slogan publicitaire, une formule faite pour claquer, pour qu'on la répète, pour qu'elle rentre dans vos têtes. Notre invité de ce soir serait capable de vous faire acheter du Hors Piste, des yaourts ou des voitures, même et peut-être surtout si vous n'aviez jamais pensé que vous en aviez besoin. Certains le surnomment le Napoléon de la pub, et Napoléon c'est bien connu, certains adorent, d'autres n'aiment pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une vie, il a un parcours, il a une histoire hors norme. Ce soir, Maurice Lévy, l'homme qui aura succédé à Marcel Blostein-Blanchet, le fondateur de Publicis, pour incarner la marque, comme disent les publicitaires. Maurice Lévy est dans Hors Piste.
Hors Piste. Thomas Soto sur France Inter.
Lundi, ils vous diront « Palmolive est formidable » et le mardi, ils vous diront « Palmolive est très mauvais ».
Je pense qu'il faut que l'on comprenne qu'il n'y a pas de bonne publicité pour un mauvais produit. Je pense qu'il faut qu'on sache qu'on ne peut pas tromper tout le monde, tout le temps.
Il faut dire, Marcel Blossel-Blanchet, que vous avez su transmettre un héritage. Vous êtes celui qui a su, de son vivant, désigner un successeur. Ça, alors... c'est l'intelligence suprême.
J'ai pris un garçon qui avait été chez moi depuis 20 ans.
Maurice Lévy.
Qui est un garçon qui est venu se proposer à une situation, je crois. Et je l'ai écouté, il me l'a amené, c'est un garçon qui est informatique.
Il y a combien de temps?
Il y a 22 ans.
22 ans.
Et je lui ai dit, expliquez-moi ce que vous allez faire, parce que l'informatique, je ne suis pas très au courant. J'ai passé un quart d'heure avec lui, je l'ai écouté, et je lui ai dit, monsieur, j'ai compris, vous serez le patron de la maison un jour.
La réaction de ma femme, ça a été de dire... rassure-toi, et de dire ça à tous ceux qui rentrent.
Un jour, il y a de ça 20 d'années, un monsieur étranger, je crois d'origine roumaine, me demande à me voir. Il me dit, voilà monsieur, je suis très embêté, je vends des bars, et puis ces bars, mais... je n'arrive pas à les vendre convenablement. J'ai fait de la publicité, mais ça ne rend pas grand-chose. Oh. Comment il s'appelle votre bar? Qu'est-ce que c'est comme bar? Je l'ai appelé Bar Dimanche. Si monsieur, c'est joli seigneur, on n'apprend pas un arc de bar pour un jour comme celui-là. Alors qu'il faut faire? J'ai enlevé le manche et gardé le dîme.
Ils sont faits de lait frais, les fromages, ils sont faits de lait frais et de crème d'Isigny.
En 50 ans, la réclame de grand-papa est devenue la publicité moderne. Une vraie activité économique qui brasse plus de 20 milliards de francs par an et emploie plus de 50 000 personnes.
Du boursin, du boursin, du boursin, du boursin, du boursin.
C'est un chèque qui donne le tournis. Maurice Lévy, patron du groupe Publicis, va toucher prochainement 16 millions d'euros de salaire. Aujourd'hui, Maurice Lévy touche donc 9 ans de bonus d'un seul coup. Une rémunération qui fait polémique, alors que le même Maurice Lévy réclamait dans une tribune l'été dernier « Taxez-nous !» avec d'autres patrons aisés à l'intention du gouvernement.
Pas assez cher, mon fils.
Allez. 16 millions d'euros, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 16 millions d'euros? Qu'est-ce qui justifie une rémunération aussi élevée? Donc, ma proposition se trouve ainsi validée. Au-delà d'un million d'euros, l'État reprendra 75%.
Ah, moi, je suis comme Carrefour, je suis positive.
Chérie, j'ai fait un rêve invraisemblable cette nuit.
Quoi? Tu étais milliardaire?
Non, tu étais simplement aimable et souriante tous les jours.
Moi aussi, j'ai fait un rêve cette nuit. J'étais effectivement toujours aimable, toujours souriante, car tu m'avais acheté tout ce qui peut rendre heureuse une ménagère d'aujourd'hui.
Ah, c'est un rêve, madame, qui peut facilement se réaliser.
Quand on travaille dans la publicité, on est obligé d'avoir un sourire comme le vôtre.
Ce sourire depuis mon enfance.
Ça tombe bien.
Oui, mais moi, je connais des gens dans la pub qui ne sourient jamais. Vous n'allez pas me reprocher de sourire?
Non, 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 non.
Il n'y aura jamais eu autant de pubs sur Inter, vous êtes vraiment fort. Bonsoir et bienvenue dans Hors Piste, Maurice Lévy.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Je vous ai vu beaucoup réagir hein, pendant ce petit portrait, une petite impression comme ça.
Il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de choses qui réveillent des sentiments. Et puis, entendre la voix de Marcel Blossel-Blanchet m'a touché. Je me posais la question de savoir si je ne devais pas annuler, mais ne serait-ce que pour entendre la voix, finalement, ça vaut le piège que vous me tendez.
Ça vous fait peur d'ailleurs, piste un peu ?
Je suis plutôt quelqu'un de sage et qui respecte même les passages cloutés, c'est vous dire. Hein.
Ça va être un rôle de composition alors, hein, pour vous.
Complètement. Hors piste, c'est complètement un rôle de composition.
D'autant que dans cette émission, il n'y a pas de chemin tracé, c'est le principe. Donc une fois n'est pas coutume, on va commencer par la fin, si vous voulez bien. Et par l'objet que je vous ai demandé d'apporter, parce qu'il m'intrigue. Qu'est-ce que c'est ? On dirait
C'est un objet qui est dans un bloc plastique,
ouais.
Parce que j'ai voulu le conserver précieusement.
On dirait une œuvre contemporaine, hein, à peu près.
C'est effectivement une œuvre contemporaine qui a été fabriquée par une main invisible qui n'est pas celle du marché, mais celle de l'incendie de Publicis. Et donc, en 72, dans la nuit du 27 au 28 septembre 1972...
Décembre, non ?
Septembre.
Septembre.
Septembre. Vous n'avez pas bien révisé, là.
Ah non,
je suis étonné.
Oui, ouais.
D'habitude...
Ouais, bah, oui. Bon.
Enfin, c'est pas
vous
grave, on vous en verra par ailleurs. Si vous m'embêtez tout à l'heure, je vous rappellerai que vous ne connaissiez pas votre dossier.
Absolument.
Donc, dans la nuit du 27 au 28 septembre 1972, l'immeuble Publicis prend feu. À l'aube, je rentre dans l'immeuble, je suis le premier à pouvoir entrer dans l'immeuble. Donc, je constate les dégâts, à quel point tout a été détruit. Et puis je ramasse quelque chose qui est un morceau d'ordinateur qui a complètement fondu, et c'est ça.
Vous êtes à l'époque directeur informatique de l'agence Publicis. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? C'est un incendie qui est dramatique, c'est un incendie qui est mortel. Pourquoi vous y allez ? Les pompiers vous disent n'y allez pas, c'est dangereux, faut pas y aller. Et vous y allez ?
La première chose, c'est que je m'inquiétais de savoir s'il y avait encore des gens, puisque nous, le département informatique, travaillait en 3-8. Et heureusement, il n'y avait personne. Donc, et puis la deuxième chose, je voulais voir un peu ce qu'était l'état des lieux, qu'est-ce qui restait de ce travail immense que nous avions
fait. Vous êtes allé aussi et surtout sauver votre travail ce jour-là.
Oui. Ouais. Justement, qu'est-ce qui restait de ce travail immense qu'on avait fait. Quand j'ai rejoint Publicis, c'était le 2 mars 1971, et c'était pour installer cette informatique. Tout d'un coup, en une nuit, le travail qui avait été fait par toute une équipe pendant 18 mois s'envolait en fumée. Au petit matin, il y avait ce tas de débris sur le trottoir de la rue Vernet. C'était toutes les bandes magnétiques et autres matériels que j'avais réussi à sortir de l'immeuble et qui nous ont permis de redémarrer quelques jours après.
Alors cet incendie, c'est en 72. En 88, j'ai bon là sur la date, en 88, Marcel Blossel-Blanchet vous cède les rênes de l'entreprise.
87.
Ah bah décidément, c'est pas ma journée.
Ah non, mais c'est pas
bon. C'est pas ma journée. Hein. Bon. Sans fausse...
Mais c'est au cours de 87 pour être applicable
pour une entrée
au 1er
en fonction
janvier 88.
En 88, absolument.
Donc c'est le 1er janvier 88, vous êtes très bon.
Ouais. Non mais
il faut que quand même je vous ménage.
Je vous laisse me chamailler, mais je suis solide sur mes appuis. Bon, sans fausse pudeur, sans fausse humilité, qu'est-ce que vous vous dites quand vous devenez le patron ?
Il faut savoir qu'à deux reprises, Marcel Blossel-Blanchet m'avait proposé de me promouvoir et à deux reprises, j'avais refusé. Et pas pour le top job, mais pour d'autres jobs. Et là, je me sentais prêt. Ça peut paraître arrogant, mais je crois que j'avais compris Marcel. C'est-à-dire que j'avais compris son mode de fonctionnement, ses impulsions, ses ambitions, ses émotions. Et je me suis dit, oui, je peux le remplacer. Et la première chose que j'ai faite, ça a été de réunir tous les collaborateurs avec un discours dont l'élément essentiel, c'était un thème, vous qui aimez les slogans publicitaires, qui était la morale de l'effacement. Et je disais, nous sommes là pour défendre les marques de nos clients et nous devons agir selon la morale de l'effacement et nous effacer devant eux. Parce qu'à l'époque, c'était une époque où publicitaire se mettait beaucoup en avant. Moi, j'étais plutôt connu pour être, non pas un introverti, je n'ai jamais été, mais plutôt en retrait et mettant plutôt en avant les clients. Et j'avais transformé ça en une véritable réflexion et qui a abouti à cette expression que j'aimais bien.
En tout cas, depuis 1971, vous n'avez jamais quitté les lieux. Tiens, il paraît que vous aimez les Clash, Maurice Sévy.
Oui. Et il y a un côté révolutionnaire chez les Clash.
Et chez vous aussi, Maurice Lévy
est
un révolutionnaire.
Mais bien sûr qu'il y a un côté révolutionnaire, mais il est bien caché, rassurez-vous.
Ah ouais, ouais.
Non, vous voyez là,
c'est un révolutionnaire en costume et à rosette, hein.
Voilà. Mais il y a un côté révolutionnaire, bien sûr. Ne serait-ce que toutes les révolutions que j'ai imposées à l'entreprise, à commencer par celle qui a sauvé l'entreprise, justement, l'informatique, sans laquelle l'entreprise n'aurait jamais pu se redresser.
Should I stay or should I go, qu'on pourrait traduire par « dois-je rester ou dois-je partir ?» Vous, ça, c'est une question que vous ne vous posez pas.
Hein. Ah non, au contraire, I should go.
Mais à 70 ans, vous venez de vous faire renouveler pour 4 ans votre mandat de président du conseil de surveillance. C'est un go qui stay, ça.
Je vais être très honnête, je ne voulais pas de ce renouvellement. Ça peut paraître idiot, pourquoi est-ce que je l'ai accepté alors que je n'en voulais pas?
Parce que vous le vouliez.
Non. Je l'ai accepté. J'ai un sentiment exacerbé du devoir vis-à-vis de l'entreprise et de la mémoire de Marcel Blossin-Blanchet, mais aussi du devoir vis-à-vis de tous les collaborateurs et vis-à-vis en particulier d'Elisabeth Badinter. Et donc, j'ai l'impression que partir, c'est trahir. Alors, certains ont dit partir, c'est mourir un peu. Là, partir, c'est trahir beaucoup.
Mais dans un pays où l'âge légal de la retraite est à 62 ans, est-ce bien raisonnable, Maurice Lévy?
Vous avez la preuve vivante que même en chaise roulante, et ce que je ne fais pas, mais comme les auditeurs le voient pas, ils peuvent se dire, mais oui, il est en chaise roulante.
Non, il est en pleine forme. Il est en pleine forme.
Oui. S'arrêter, d'abord, c'est absurde à une date donnée parce que l'horloge biologique dépend de chacun. Il y a des gens qui doivent s'arrêter à 62 ans. Il y en a qui doivent s'arrêter à 70, 75.
Oui, mais s'arrêter.
Il y a certains.
S'arrêter, c'est aussi laisser la place.
Qu'est-ce que vous dites
à ceux qui disent, il y en a marre de ces vieux qui s'accrochent dans la pub, en politique, dans les médias aussi. Vous leur répondez quoi?
Ils ne me le disent pas. C'est déjà un point. Donc, mais puisque vous me posez la question, en vérité, je ne m'accroche pas. En vérité, c'est difficile à croire, mais moi, je serais parti déjà depuis longtemps. Je ne voulais pas être en même temps qu'Arthur Sadoun, qui a été nommé président du directoire en 2017.
Donc votre successeur opérationnel, on va dire.
Et qui est, pas opérationnel, c'est le successeur tout plein, avec tous les pouvoirs. Ouais. Et je pensais que c'était pas bien que je reste. Il se trouve que le conseil de surveillance, Elisabeth Badinter, les autres administrateurs, Arthur lui-même, pas mal d'investisseurs, ont souhaité que je reste pour assurer la transition. Et je pensais qu'un seul mandat aurait dû suffire et suffirait à remplir cette mission. Il se trouve que certains pensent que je peux encore être utile.
Maurice Lévy, ça vous plaît de rester encore un peu?
Oui et non.
Ah.
Attends, oui, je vais pas vous mentir.
Et d'autant qu'on va dire les choses honnêtement, tout le monde dit que vous êtes extrêmement bienveillant avec Arthur Sadoun, que ça se passe très bien, voilà. Mais il y a pas une petite peur chez vous qu'on vous oublie?
Non. Non, absolument pas. D'ailleurs, vous avez eu la gentillesse de me sortir du congélateur et du camphre. Donc, je suis heureux d'être là. Je me dis, tiens, je me suis pincé. Je me suis dit, c'est bien Thomas, oui. Celui qui se levait tôt. Je n'ai pas besoin aujourd'hui ni d'exister médiatiquement. J'ai fait un parcours qui me convient et qui est magnifique. Et il se trouve que, en particulier aux États-Unis, je connais encore énormément de personnalités de premier plan et que c'est très facile de passer un coup de fil quand il y a une situation délicate, une compétition, quelque chose. J'appelle le CEO, je discute un petit peu et puis j'aide. Je ne fais pas le travail, c'est Arthur qui le fait magnifiquement.
Il paraît qu'il a mis un siège éjectable, un vrai siège éjectable dans son bureau, Arthur Sadoun.
Ah oui, il a acheté ça aux puces il y a bien longtemps, et quand il a rejoint Publicis, avec ce siège éjectable.
Ouais.
Donc ça fait un peu plus de 10 ans Et il a bien vu qu'il n'avait pas besoin du siège éjectable. Il remplit à 100% sa mission, très bien, très complètement, et il fait un travail admirable.
Mmh. De quoi vous rêvez pour votre retraite ? Vous y avez déjà pensé ou pas à ça ?
Alors, je pense souvent à... je sais pas s'il faut appeler ça retraite. Je pense souvent, je vais appeler ça l'après.
Ouais.
L'après. D'abord, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer inactif. C'est un truc, j'arrive pas à m'imaginer inactif. Je ne me vois pas jouer à la pétanque avec quelques gens de mon âge en laissant la bedaine plus un petit pastis. C'est pas mon truc. La dimension ne rien faire, les pieds en éventail, la sieste ne me convient pas. D'autre part, j'adore rester connecté. Je veux dire que ce monde est fascinant et que ce serait idiot de dormir pendant qu'il se transforme. Ce serait absurde. Vous dormez et puis tout d'un coup, vous avez Oculus et Facebook qui sort Metaverse et tout un univers et vous vous dites, merde, mais c'est quoi ça ? Donc je préfère le suivre, voir comment ça fonctionne. Et puis j'adore aussi l'aventure entrepreneuriale. Et donc j'aime être occupé. Je viens de faire quelque chose que je n'ai absolument pas besoin de faire. Je veux dire que ça ne m'apporte pas grand-chose, mais j'espère apporter beaucoup.
C'est l'escalator, c'est ça ?
C'est l'escalator. Ouais. Et ça, je l'ai fait pourquoi ? Je l'ai fait parce que...
L'escalator, c'est un coup de main pour ceux qui sont en difficulté, pour ceux qui n'arrivent pas à prendre l'ascenseur social. Vous dites, bah, prenez l'escalator. On aura l'occasion d'en reparler, mais je ne sais pas si vous allez supporter. On va faire une pause.
Oui.
Vous allez tenir ?
Une pause de pub ?
Non, s'il vous plaît, on est sur France Inter. Une pause musicale, le temps d'écouter le tout nouveau titre d'Angèle, Bruxelles, je t'aime.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour, mais bon, vous voyez. Paris m'appelle,
France Inter, hors piste, Thomas Soto.
Et Angèle, Bruxelles, je t'aime. Angèle qui a écouté attentivement Maurice Lévy, notre invité ce soir. Maurice Lévy, quand on parle de pub, dans beaucoup d'esprits, la pub en France, c'est Séguéla. Quelle différence entre Maurice Lévy et Jacques Séguéla?
Ah ben, Séguéla a énormément de talent, c'est un grand créatif.
Blablabla.
Et il a fait des campagnes politiques et c'est ce qui l'a rendu célèbre.
D'accord.
Et bon. Puis...
ça, c'est la fiche Wikipédia, mais sinon, ce que vous en pensez, vous?
Mais moi, j'aime bien parce que c'est un personnage tendre, c'est une grande gueule et il aimait bien agresser Publicis. Et puis, une fois que la période d'agression est passée, il y a entre lui et moi une relation qui, quand même, dans l'ensemble, à la fois respectueuse et pleine de tendresse.
Quand on a une vie de pub comme vous, est-ce qu'on n'est pas suspect de vouloir tout vendre, Maurice Lévy, de faire de tout un concept marketing? On vous écoute et on se dit « Oh là là, celui-là, il essaie encore de me vendre sa soupe ». Est-ce que ça peut être gênant dans la vie?
Non, il y a des choses que je réussis pas à vendre. J'ai pas réussi à vendre du sable dans le désert, ni de la neige à la montagne.
C'est en cours de négo, c'est ça.
Mais il y aura des progrès à faire. Non, je suis pas obsédé par mon boulot, mais c'est vrai que il y a une machine qui tourne en permanence sur la dimension conceptuelle des marques, des produits, le positionnement. Ou quand quelqu'un parle et s'exprime, j'ai envie de dire mais ou c'est génial, ce qui est rare, ou mais tu devrais te taire.
Mais ça laisse une place à la franchise et à la sincérité, ou est-ce que la forme...
Ah, moi je pense qu'il faut rester authentique, c'est d'ailleurs un des problèmes. Comment rester authentique dans un univers qui est quand même un peu artificiel? Et c'est pour ça que je me suis beaucoup préservé, et que je n'ai pas beaucoup fréquenté le milieu de la pub.
On va parler de vous, mais vraiment de vous maintenant, Maurice Lévy. Il y a un sujet qui m'intrigue, c'est votre rapport à la religion. Vous êtes de religion juive. Quelle importance a la religion dans votre vie?
Je suis, comme vous l'avez dit, juif, et je suis un juif de tradition. Mais en même temps, j'ai été en quelque sorte élevé sur les genoux de mon grand-père, qui très régulièrement m'expliquait des choses pendant des années. Je passais tous les étés chez lui, dans le sud de l'Espagne. Il me racontait des contes et il m'apprenait énormément de choses. Je ne suis pas un juif pratiquant. C'est-à-dire que je ne vais pas à la synagogue tous les jours, pas même toutes les semaines, pas même tous les mois.
Mais quelle part occupe la foi dans votre parcours?
La religion occupe une part importante de ma vie sur un plan privé. Elle ne déborde jamais du plan privé. J'essaye de la cantonner sur ce plan-là. Je me sens profondément juif, j'ai été élevé comme tel, j'ai suivi le cursus, j'ai appris le Talmud Torah, j'ai fait ma bar mitzvah, etc. Et puis je trouve que les moments de fête sont des moments très importants, parce que c'est des moments où toute la famille se retrouve. Il y a une dimension très familiale dans la religion juive. Je veux dire que les célébrations, curieusement, un jour vous pencherez là-dessus, vous verrez, les célébrations se font autour de la table. C'est autour de la table que tout se passe. Et c'est des moments de joie et de bonheur. Est-ce que je suis saisi par la foi? Est-ce que j'écoute les paroles en me disant « je vais monter au ciel » Non.
Ouais. Non. Vous croyez au destin ou pas?
Au destin?
Ouais.
Je ne sais pas ce que ça a à voir avec la religion. Je ne crois pas. Je crois que tout le monde a un destin. Point barre, et que c'est qu'il faut savoir se saisir de la chance pour transformer son destin en faire ce qu'on veut. Hein, c'est René Char qui avait dit « Serre ta chance, à te voir, ils s'habitueront », etc.
Il paraît que dans votre bureau, on trouve une Bible sortie des décombres de ce fameux incendie de septembre 72 dont on parlait tout à l'heure.
Oui, c'est une Bible intégrale, Ancien et Nouveau Testament, qui a dû être imprimé, je veux pas dire de bêtises, mais 17e. Elle était dans le bureau de Marcel Bleustein-Blanchet, et c'est la seule chose qui était intègre qu'il a retrouvée. Il n'y avait que la couverture qui avait brûlé, et puis, à sa mort, il me l'a léguée. Et donc, je la garde précieusement. D'abord, pour ce qu'elle représente, c'est quand même assez extraordinaire. Si on veut chercher une symbolique, on dit tout est détruit. Les Renoir, les Picasso, tous ces magnifiques tableaux qui étaient dans le bureau de Marcel Boussin-Blanchet, ces meubles Louis XV et Louis XVI qui étaient là, pouf, partis en cendres.
Et il reste la Bible.
Et il reste la Bible. Donc on peut se dire, il y a quelque chose de transcendantal, de formidablement symbolique dans le fait que tout disparaît et reste la parole de Dieu. Alors, travesti, élaboré, complété par les prophètes qui étaient des scribes ou autres. Et donc, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, ça force nécessairement le respect pour cela. Et je me dis, mais quel est le sens? L'immeuble, l'un des immeubles les plus chers de Paris à l'époque, brûle tout en haut des Champs-Élysées, on en parle à Tokyo, à New York, partout dans le monde entier, c'est comme une traînée de poudre. Et qu'est-ce qui reste de cet immeuble? Quelques bandes magnétiques qui permettent à l'entreprise de repartir, et cette Bible.
En revanche, il y a une Bible, mais il n'y a pas une photo de votre famille, de vos enfants, de votre épouse, de vos petits-enfants dans votre bureau, vous me confirmez?
Je vous confirme.
Pourquoi?
Ben parce que c'est un endroit professionnel, je ne veux pas qu'il y ait de partie privée.
On va écouter le titre que vous avez choisi ce soir pour Hors Piste sur France Inter, c'est « My True Love » de Jack Scott. I pray to the Lord to send me He sent me an angel from heaven above. The stars in the sky, he placed in her eye. She is mine. Touch my true love of her hand, my true love, capture my true love, my soul, my true love, and the kiss, my true love, from her lips, my true love, set my true love aglow, my true love, and I know, my true love, from heaven, my true love, from hell, my true love. I thank my true love, the heaven, my true love, the heavens, my true love, above, my true love, for sending my true love, my true love. My True Love de Jack Scott, c'est le choix de Maurice Lévy sur France Inter qui fait du hors-piste avec nous ce soir. Alors évidemment, pourquoi ce choix?
Alors, j'aurais pu venir avec Brel, John Lennon, ou les Beatles, ou Ray Charles, j'adore. Et puis, vous m'avez dit, laissez-vous porter et déboutonnez-vous.
Ouais.
Alors, pour une fois, je vais me déboutonner. C'est d'abord un slow, comme vous avez compris, magnifique. Et c'était sur ce slow que j'avais déclaré ma flamme à celle qui est devenue ma femme.
Raquel.
Voilà. Mais avouez que c'est très dansant.
C'est très dansant et je vous ai vu un peu partir hein, pendant la chanson. Vous étiez ailleurs, vous nous aviez un petit peu quitté.
Ben, je pensais à cette époque et je pensais effectivement à ce moment.
Delle, voilà. Votre femme, qui est la mère de vos trois enfants, vous dites, elle est mon fil à plomb. Est-ce qu'elle arrive à vous calmer, à vous poser, à prendre le contrôle de Maurice Lévy de temps en temps?
Alors, oui, plus que ça, elle me ramène au niveau que je ne devrais jamais quitter, c'est-à-dire celui de la terre, et elle fait en sorte que j'évite d'avoir la grosse tête. Donc,
ça peut vous arriver?
C'est un risque hein, qui existe. Hein. C'est un risque qui existe. Mais elle l'a fait dès le premier jour, quand je lui avais dit que Marcel Bossal-Blanchet, effectivement, m'avait dit le premier jour, nous étions vus. Il signe le livre à Maurice Lévy, qui m'a convaincu, la rage de convaincre, ici, et il me dit, voilà, jeune homme, un jour vous dirigerez cette maison. De mars 1971. Je rentre.
Fier, heureux.
Heureux, fier. Et j'ai dit, j'ai impressionné. Elle m'a dit de dire ça à tous ceux qui rentrent.
Ouais. Descendre voilà. Ton poney.
Voilà. Et donc là, vous redescendez de trois étages.
On parle de la famille. Vous évoquiez votre grand-père tout à l'heure. Pour vous comprendre, il faut évoquer votre père aussi, un prof de philo condamné à mort par l'Espagne franquiste qui s'exile au Maroc. Il paraît que cette histoire, votre histoire, vous donne d'ailleurs des envies de Guernica. C'est vrai ça? Guernica, qui est la fresque anti-franquiste de Picasso, inspirée du bombardement de la ville en 37.
Bien sûr. C'est vrai que pendant des années, l'Espagne a été quelque chose que... Je suis allé quand j'étais enfant, voir mon grand-père. Dès que l'enfance est passée, l'adolescence, je ne suis pas retourné. Tout comme mon père n'est pas retourné, il n'a jamais cru à l'amnistie de Franco. Et il était persuadé que... le jour où il rentrera en Espagne, il serait probablement arrêté et condamné. Et puis, je dois dire que les gens ont été très surpris à Publicis. C'est une des rares manifestations à laquelle j'ai mêlé un peu de choses personnelles. À la mort de Franco, je suis descendu au drugstore, j'ai acheté quelques bouteilles de champagne et j'ai invité tout l'étage. Voilà. Est-ce que cela pourrait me conduire à être révolutionnaire? En tous les cas, les dictatures, c'est quelque chose qui est horripilant, qui est insupportable. Le fascisme aussi, ce sont des choses qui sont très loin de mes valeurs et qui me sont archi insupportables.
Mais est-ce que vous auriez vraiment envie d'acheter Guernica? Ma question, c'est est-ce que tout peut s'acheter?
Non. Et Guernica est dans un musée. Guernica est dans un musée et donc inaccessible. Inaccessible, c'est incessible, inaliénable, mais vous savez, il suffit d'aller, de s'asseoir et de regarder, et c'est juste extraordinaire. Je veux dire que Picasso ait peint Guernica, il faut passer des heures à regarder parce que vous voyez... tellement de détails que vous ne découvrez jamais au premier coup d'œil.
On ne peut pas acheter Guernica, Maurice Lévy, c'est très bien comme ça. Est-ce que vous connaissez le montant de votre fortune aujourd'hui?
Il suffit que je lise Challenge.
Ouais. Ils avaient parlé de 280 millions en 2016.
Oui, c'est possible.
C'est à peu près ça?
Oui, c'est des actions de Publicis, essentiellement.
On entendait dans le portrait, en début d'émission, les remous de l'affaire de votre fameux bonus de 16 millions en pleine campagne de la présidentielle de 2012. C'était devenu un sujet de campagne. D'ailleurs, on entendait François Hollande qui s'en était saisi pour justifier sa taxe à 75%. Avec le recul, vous en pensez quoi de tout ça?
Avec le recul, je pense que j'ai eu tort d'accepter ce mécanisme. En réalité, ce qui s'était passé, c'est que au moment où on commençait à faire des acquisitions, je pensais que le système de bonus que j'avais risquait de m'amener à avoir des rémunérations explosives. Et donc j'avais demandé à ce qu'on change à la baisse. Et puis c'est ce qui a été fait. Et le président du comité de rémunération à l'époque avait considéré que il fallait s'assurer de ma présence et que je ne puisse pas partir à la concurrence. Et donc mon bonus a été divisé par deux chaque année et mis de côté. La moitié a été mise de côté.
Mais on arrive à 16 millions.
Et c'est là où, au bout de 9 ans, on arrive effectivement à 16 millions. C'est beaucoup d'argent. J'ai toujours considéré que c'était beaucoup d'argent.
C'est trop ou pas ?
Tout est relatif.
Non mais vous qui avez lancé, vous parliez de l'escalator tout à l'heure, pour aider ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ceux qui gagnent beaucoup dans ce pays gagnent trop ? Ou est-ce que c'est un mauvais procès ?
D'abord, c'est par rapport à quoi, trop ? Trop par rapport au SMIC, c'est trop. Par rapport à des gens qui n'ont pas de quoi manger, c'est énorme, c'est insupportable. Par rapport à Elon Musk, c'est une rigolade. Moi, je suis pour, et j'ai toujours dit, pour que les patrons soient payés essentiellement à la performance, qu'ils peuvent gagner énormément d'argent, et que s'il doit y avoir une correction, elle doit se faire par l'impôt. L'impôt, il n'y a plus besoin d'en parler en France, parce qu'on a l'impôt le plus élevé de la Terre. Donc, on est champion. Mais à une époque où on avait baissé les impôts, moi j'étais pour les remonter. Et j'avais fait une déclaration dans ce sens, et même écrit un article dans Le Monde pour appeler à...
Taxez-nous, en 2011.
Appeler une plus forte taxation. Et d'autant plus qu'on traverse une crise.
J'imagine là, des auditeurs qui sont en train de nous écouter, qui se disent « Ok, il nous dit taxez-nous, il prend un bonus de 16 millions, il se fout de nous. » C'est un sujet qui vous blesse, ça, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui n'arrivent pas à comprendre ça ? Parce qu'il y a plus de smicards que d'Elon Musk.
C'est bien pour ça que je vous dis, c'est quasiment inexplicable. Pour des 10 cadres dirigeants, ça va. Pour des cadres moyens, ça va déjà moins. Et pour des employés ou des ouvriers ou des smicards, c'est insupportable.
Vous auriez pu décider de dire, je ne prends pas cet argent, ça ne vous aurait pas empêché de bien vivre. Vous ne le faites pas, pourquoi ? Parce que vous dites que ça serait céder...
Qui vous dit que je n'ai pas fait quelque chose de cet argent ?
Qu'est-ce que vous en avez fait ?
Mais ça fait partie des choses privées. Et je ne suis pas de ceux qui étalent ce qu'ils font au titre de la philanthropie, de charities, etc. Donc, je fais mes choses discrètement, simplement. Et puis, vous savez, on ne peut pas vivre dans le regard des autres toute sa vie. Je serais insupportable à certains qui vont trouver « Mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui gagne autant de pognon ?» Et je comprends qu'il puisse me détester pour ça. Par ailleurs, je pourrais avoir un discours rationnel en disant « Écoutez, j'ai pris une boîte qui faisait à peu près 5000 personnes, qui était en France et dans quelques pays d'Europe, qui était le 17e ou 18e groupe mondial. J'en ai fait le 3e groupe mondial, 80 000 personnes, éminemment respectées partout et éminemment respectées sur toute latitude et un champion français indiscutable. Ça mérite... récompense. Mais je veux même pas rentrer dans cette discussion parce que elle est, pour certains, tout aussi inaudible que de dire, ça a été le résultat de 9 ans pendant lesquels j'ai mis la moitié de ma rémunération de côté.
Je vais vous poser une question qui va faire que moi aussi je vais me faire allumer. Vous en avez souffert de cette histoire ?
Bien sûr, j'en ai souffert. Évidemment. Je ne veux pas vous dire, écoutez, je m'en fous. Non, bien sûr, j'ai été blessé. J'étais blessé, j'ai trouvé ça injuste. En plus, il se trouve que c'était en pleine campagne électorale, donc tout le monde s'est jeté là-dessus, comme la vérole sur le bas clergé, et ils y sont allés, mais sans se poser de questions, sans savoir ce que ça voulait dire. Vous avez cité Hollande, d'abord il a dit 16 millions par mois, et puis tout le monde y est allé, de sa chansonnette. Moi, je ne vais pas dire que je me suis beaucoup battu pour le groupe, je me suis beaucoup battu pour la France, je me suis beaucoup battu pour faire en sorte que le pays soit dignement représenté partout. Je fais partie des quelques rares Français qui sont connus partout dans le monde et par les personnalités les plus importantes du monde de la tech, du monde des affaires, de l'industrie.
Donc, parce que vous le valez bien, comme on dirait chez L'Oréal, si on voulait boucler avec un slogan.
Mais je n'aime même pas, j'adore ce slogan, mais je n'aime même pas cette idée, parce que, comme je le dis tout à l'heure, je le disais tout à l'heure, c'est, tout ça est relatif.
Maurice Lévy, vous avez été amené à côtoyer les politiques, vous le disiez à l'instant, vous l'évoquiez, les puissants de ce monde depuis longtemps. Tenez, écoutez cet extrait, on est dans les années 70, sous Pompidou.
Au château de Versailles, sous la présidence du ministre des Finances, M. Valéry Giscard d'Estaing, s'est déroulé le dîner de gala qui clôturait l'Assemblée Générale de l'Association Européenne des Agents de Publicité. Celle-ci s'était tenue pour la première fois en France sous les auspices de Marcel Bleustein-Blanchet, et c'est dans la grande salle des croisades, exceptionnellement mise à sa disposition, que s'est ainsi achevée, à l'ombre du grand siècle, la réunion de ceux dont le rôle est déterminant dans la construction du nouveau siècle, tant la publicité est maintenant indissoluble du progrès et de son rayonnement.
La publicité indissoluble du progrès et de son rayonnement. Valéry Giscard d'Estaing, qui était ministre des Finances à l'époque. Vous avez côtoyé Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Humainement, lequel vous a le plus marqué, Maurice Lévy?
Humainement? C'est très intéressant parce que vous n'arrivez pas à ce niveau sans avoir votre lot de cicatrices, de difficultés. Je crois que, je dirais Sarkozy, qui a joué un rôle de président, qui a été un président sincère, qui a été mal compris, qui a commis beaucoup d'erreurs de comportement, beaucoup plus des erreurs de comportement que de stratégie, et qui a réussi à se mettre tout le monde à dos et qui en a souffert énormément.
Vous avez aussi été très proche de l'ancien président israélien Shimon Peres, qui disait « La différence entre les optimistes et les pessimistes, c'est qu'ils naissent et meurent de la même façon, mais qu'ils vivent différemment. » Est-ce que vous êtes aussi optimiste que vous vous évertuez à le montrer, Maurice Lévy ?
Ah, je suis profondément optimiste. Ouais. Je suis optimiste, même dans les pires moments, je n'arrive pas à être démoralisé et je n'arrive pas à être déprimé. La déprime, je ne sais pas ce que c'est.
Mais on se dit parfois ce type cache ses tourments derrière son sourire impeccable et sa capacité à parler fort.
Je ne sais pas si je parle fort, mais le sourire est naturel. Je ne peux rien. Voilà, ça, c'est comme ça. Vous aussi, vous avez un sourire naturel. On a tendance à sourire. Il y a des gens qui ont du mal à sourire. Moi, d'ailleurs, j'avais une prof d'anglais. Qui un jour m'avait demandé pour mon devoir, j'étais arrivé en retard et j'ai dit écoutez, je vais vous dire la vérité, je ne l'ai pas fait et j'ai souri. Elle me dit ton sourire te sauvera.
Comme quoi.
Voilà.
On arrive presque au bout de ce hors-piste. Je voulais savoir si vous aussi, il vous arrive que la pub vous horripile, Maurice Lévy.
Ah oui. Et parfois même, je ne devrais pas le dire, et il m'est arrivé de ne pas aimer des choses que nous avons pu sortir. Mais dans l'ensemble, j'aime beaucoup la pub. Alors, la pub, elle a un caractère économique indispensable. Elle est un moteur extraordinaire de l'économie sans lequel Internet n'offrirait pas ce qu'il offre. Il ne faut pas oublier que si on a Google et si on a Facebook et si on a un certain nombre d'instruments gratuits, ouais, c'est bien. C'est pas gratuit pour tout le monde d'ailleurs. C'est bien parce que la pub est là.
Mais elle sert à quoi la pub ? Elle sert à accompagner la société, à la changer, à l'orienter, à la manipuler. C'est quoi son rôle ?
La manipuler, certainement pas. Je veux dire, là-dessus, soyons clairs, l'accompagner, oui, la transformer aussi, parce qu'il faut transformer les esprits, il faut amener les gens à accepter la transformation, le progrès, et la pub dans ce domaine aide. Je veux dire que la pub aide, par exemple, à expliquer qu'il faut se faire vacciner, elle aide dans énormément de domaines. Donc, la pub a un rôle indispensable, non seulement comme un rouage économique, mais aussi comme un élément de la culture populaire. Vous avez fait passer au début quelques musiques, tout le monde aura reconnu Dim, quelques slogans, on a reconnu Boursin et d'autres. Donc, vous écoutez quelques notes de musique et vous êtes dans les voitures à vivre de Renault, c'est juste extraordinaire. La pub fait partie de la vie, elle apporte de la couleur et elle permet aussi de développer l'économie et de mettre à la portée du plus grand nombre les produits.
Il vous arrive aussi de baisser un peu le son pendant la pub à la télé ou à la radio ?
Moi, je le monte. Pardon. Je le monte.
Oui,
ça énerve ma femme. Mmh. Mais je suis mordu. Je suis un mordu de la pub. Je veux dire, j'ai pas fait ce métier pendant 50 ans pour ne pas l'aimer.
Ouais. Quel slogan pour Hors-Piste ?
Je ne sais pas, là, comme ça, spontanément. Je dirais, détachez votre ceinture, vous êtes hors piste avec Thomas Soto.
Bon, on va voir si on le reprend et combien vous nous le facturez.
Non, le reprenez
pas. Et combien
pas
vous nous le facturez surtout, parce qu'on se méfie avec Publicis.
Mais là, il est gratuit.
Merci beaucoup, Maurice Lévy, d'être venu faire un peu de hors piste avec nous. Merci également à Stéphane Combe à la réalisation, ainsi qu'à Marie Merrier, à Charlotte Leloup à la préparation, Claire Tesser à la mémoire vive et Florian Dorimini aux manettes. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h. Et c'est Philippe Martinez, la moustache la plus célèbre du syndicalisme français, qui sera avec nous. Il vous inspire quoi, Philippe Martinez?
Ben, il devrait transformer sa moustache en bacchante.
Pourquoi ?
Ça lui donnerait un air plus sympathique.
On lui suggérera. Maurice Lévy dans Hors-Piste, le dernier mot revient toujours à l'invité. C'est donc à vous pour conclure.
Ben écoutez, d'abord merci de cette invitation. Comme je vous l'ai dit, j'ai hésité à venir parce que j'étais pas très sûr d'être à l'aise et puis que je n'allais pas gâcher votre émission. Je l'ai peut-être gâché, mais en tous les cas, j'ai passé un bon moment. Merci.
Merci. Merci d'être venu avec nous. Juste après le journal, vous retrouverez l'émission Les Petits Bateaux avec Noël Bréham.